Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 8h30 en temps universel, 10h30 ici à Paris. Le journal, l'actualité africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. La une de cette édition en République démocratique du Congo où des milliers de personnes se retrouvent sans abri après les inondations provoquées par de fortes pluies, conséquence du phénomène climatique El Niño. Au Burundi, ce sont près de 100 000 personnes qui sont désormais déplacées. Au Bénin, vive tension après les contrôles de casque obligatoires pour les utilisateurs de deux roues mis en place depuis le 1er mars. Les forces de police sont accusées de dérive et de brutalité. Certains agents ont été sanctionné, mais la pression, elle, ne redescend pas. Le phénomène El Niño, je vous en parlais, eh bien, en plus de provoquer des inondations, il est à l'origine du blanchissement des récifs coralliens dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Illustration concrète à Madagascar dans un instant. Et puis l'Inde, qui entend renforcer son influence sur le continent africain, une stratégie qui passe par plusieurs biais, notamment celui du soft power avec ses films bollywoodiens, largement concurrencés par les films nollywoodiens. Les suites des conséquences des inondations provoquées par le phénomène climatique El Niño dans l'est du continent africain. Des milliers de personnes ont dû fuir leur habitation. C'est le cas notamment autour des rives du lac Tanganyika. D'un côté de la rive, la République démocratique du Congo. Si certains sinistrés ont vite retrouvé un abri, d'autres doivent en revanche passer la nuit sans toit. Ils appellent à l'aide. Illustration de cette situation avec notre correspondante à Lubumbashi, Denise Mayo.
Sur l'avenue Tanganyika au quartier Kamkolobondo, Jeanne Kabwe a perdu ses deux maisons. Elles se sont écroulées à la suite des inondations. Aujourd'hui, elle et ses 10 enfants passent la nuit à la Belle Étoile.
Je ne sais pas où aller. Nous passons la nuit dehors et pour abriter les enfants, nous avons construit une petite hutte en paille au coin de la parcelle. Lorsqu'il y a les grosses vagues du lac, l'eau nous envahit. La nuit, je ne dors pas.
Georgette Kalunga habite le même quartier. Elle aussi n'a pu trouver un nouveau logement par manque de moyens financiers. D'un ton triste, elle affirme que sa famille est sans abri.
Le loyer coûte cher. Une maison de 2 pièces coûte entre 50 000 et 70 000 francs congolais. Et pour la prendre, il faut verser l'équivalent de 5 mois de loyer comme garantie. Nous n'avons pas d'argent. Déjà, il est difficile d'avoir de quoi manger. Voilà, nous sommes là, dehors et impuissants.
Pour l'heure, les milliers de sinistrés sont sans assistance. Le gouvernement provincial indique qu'il procède encore au recensement des victimes. Les acteurs humanitaires, eux, se réunissent ce vendredi et pourront peut-être évaluer la situation. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
Et de l'autre côté de la rive, le Burundi, où les autorités assurent que près de 100 000 personnes ont dû fuir leur domicile en raison des inondations. Dans un communiqué signé avec les Nations Unies, Bujumbura évoque les dégâts occasionnés par ces pluies exceptionnelles. Le Burundi qui en appelle à l'aide de la communauté internationale. Ces fortes pluies sont encore attendues jusqu'à la fin du mois de mai et font craindre une dégradation de la situation. Au Bénin, les forces de l'ordre mises en cause par l'opinion à propos de dérives et de brutalité, c'est le contrôle de casques obligatoire pour les deux roues lancé le 1er mars dernier qui est source de vives tensions dans le pays. Des incidents ont été filmés, diffusés sur les réseaux, obligeant la direction générale à prendre la parole et à sanctionner certains de ses agents. Pour autant, les critiques ne s'estompent pas. Jean-Luc Aplogan est à Cotonou pour RFI.
Les dénonciations contre la police sont allées crescendo avec 3 incidents qui ont choqué l'opinion ces 15 derniers jours. Le premier à Natitengu où une vidéo a montré un homme à terre roué de coups de rendez dans les côtes. Deuxième incident également filmé, un policier accroché à la portière ouverte d'un bus. L'agent en uniforme dispute le volant avec le conducteur pour tenter de l'immobiliser. À bord, des passagers affolés hurlaient. Et puis ce mercredi, à la périphérie de Cotonou, la mort d'un maçon, à l'origine une affaire de contrôle selon des témoins. En réaction, la population a brûlé des pneus et bloqué la voie Cotonou-Porto Novo. On apprend que la hiérarchie policière a puni 3 policiers à Cotonou. Les auteurs de la bastonnade de Natitengu sont en détention provisoire et seront jugés le 24 avril avec l'auteur de la vidéo. L'opinion désapprouve la détention de ce dernier et critique toujours la police sur les réseaux sociaux et sur les radios. Un numéro vert de la police est ouvert pour enregistrer les plaintes. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Bassirou Diomaye Faye a effectué son premier déplacement à l'étranger en tant que chef de l'État du Sénégal. Il a choisi la Mauritanie et a été accueilli par son homologue Mohamedou Razouani, également actuellement à la tête de l'Union africaine. Enjeux sécuritaires, exploitation de gisements de gaz au large des deux pays ou encore accord de pêche entre Dakar et Nouakchott étaient au programme de cette rencontre. Demain, le président sénégalais sera chez un autre voisin, la Gambie. Zoom à présent sur un phénomène mondial et généralisé causé par le phénomène El Niño dont on parlait au début de cette édition, le blanchissement des coraux. Il est constaté à des degrés divers dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Un phénomène mis en avant par l'administration américaine des océans et de l'atmosphère dans un rapport sur la conservation des récifs coralliens et qui n'épargne pas Madagascar, la grande île et sa région qui connaissent ce pic de blanchissement. Sarah Teto est à Antananarive.
Le blanchissement corallien est le résultat d'un stress causé chez ces animaux marins. La hausse de la température globale de surface des océans, qui a atteint un niveau record depuis début 2023, est aujourd'hui le facteur principal de ce stress. Répartis sur 5000 km de côte, les coraux malgaches paient un lourd tribut, explique Maher Ranjanarive, biologiste marin chez WWF.
On revient d'une mission dans le sud du pays où l'on est allé voir la sévérité, l'étendue du blanchissement corallien. On a échantillonné des récifs le long de 250 km de côte au sud de Tulia et on a constaté que 48% des coraux sont atteints et impactés par le blanchissement. Et naturellement, on sait déjà que la situation est plus grave au nord du pays sur les récifs autour de
La raison, c'est que les eaux y sont en effet plus chaudes. Les récifs, situés aux abords du canal du Mozambique, à l'instar de ceux des Comores ou de Mayotte, sont plus affectés que ceux sur la côte est de Madagascar, où les courants permettent un meilleur brassage de l'océan. Et cette disparition programmée, poursuit l'expert marin, a des conséquences multiples, tant dans les océans qu'en surface.
Les coraux sont les ingénieurs clés de l'écosystème. Plus il y a coraux, plus il y a de vie. Donc moins il y a de coraux, moins il y a de poissons, ce qui a un impact direct sur les communautés côtières en termes de nourriture et de sources de revenus.
Le dernier blanchissement mondial de 2016 a causé la perte définitive de près du tiers de la couverture corallienne de la région océan Indien. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et ce blanchissement des récifs coralliens, on en parlait également ce matin avec notre invitée Françoise Gaille, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. Un entretien au micro de Julien Coquel-Rouhem à retrouver dès à présent sur les différentes plateformes d'RFI. Trois jours de deuil décrétés par le président kényan, un hommage après la mort du chef des armées et neuf autres responsables militaires dans le crash hier d'un hélicoptère dans une région reculée de l'ouest du pays. Ces responsables militaires étaient en déplacement dans cette région située à 400 km de Nairobi pour rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre de l'opération Maliza Walifu, mettre fin à la criminalité en Swahili destinée à combattre les groupes de bandits. Et puis on démarrait ce vendredi les élections législatives qui s'étalent sur environ un mois et demi en Inde. On s'intéresse à ce pays qui cherche à accroître son influence en Afrique. L'Inde est actuellement le deuxième investisseur sur le continent derrière la Chine avec 75 milliards de dollars par an et cette influence, elle passe aussi par le 7e art. Au cours des 60 dernières années, les Africains ont dévoré les films de Bollywood, des productions en hindi nées il y a un siècle à Bombay, peu à peu dépassées par le succès de Nollywood. C'est un sujet signé Ilham Cheblaoui.
C'est dans les années 50 que Bollywood frappe aux portes de l'Afrique. Les classiques indiens sont un succès auprès des Africains, en particulier en Égypte, au Nigeria ou encore au Tchad, et ce, malgré l'absence de doublage. Olivier Barlet, chercheur en cinéma d'Afrique.
Ce qui fascinait, c'était tout simplement que c'était des mélodrames qui fonctionnaient bien. Je me souviens d'une phrase de Salman Rushdie qui disait « Bollywood, c'est un masala épico-mythico-comico-super-sexy ». Et le masala, c'est un mélange d'épices fortes, hein, je veux dire, c'est ça un film de Bollywood, quoi.
Les thèmes récurrents autour de la communauté, de l'honneur et des valeurs familiales ont trouvé un écho auprès des Africains.
La baisse de succès des films de Bollywood était liée à leur profonde transformation interne. Ils ne répondaient plus à leurs données traditionnelles et ils devenaient tout simplement des films qui plaisent à la classe moyenne. Les contenus, les personnages vont tous appartenir à la bourgeoisie, etc., ne vont plus correspondre à des personnages auxquels on a envie de s'identifier, quoi. dans un contexte africain.
Pour Olivier Barlet, Bollywood ne fait plus autant recette en Afrique, notamment avec l'essor du cinéma nigérian.
Le succès de Nollywood, lui, va remplacer le succès de Bollywood. Dans le sens où les préoccupations des gens vont plus se retrouver dans les films de Nollywood que dans les films de Bollywood.
Nollywood est devenue la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde, juste derrière Bollywood.
Ilham Cheblaoui, et c'est en musique que je vous repasse la main, Édouard Dupénoit.
Merci beaucoup, bonne journée, Nemo en piste, 10h40 à Paris.